Décryptage, Marie Cazadebé.
6 millions de mails envoyés rien que ces deux dernières semaines aux eurodéputés. La gigantesque campagne de lobbying exercée par les géants du numérique n'aura finalement pas empêché l'adoption cette semaine d'une nouvelle directive européenne sur les droits d'auteur sur Internet.
YouTube aujourd'hui, c'est 94% de la consommation de musique en ligne et c'est à peu près 3% des revenus qui sont versés au secteur de la musique du fait de la consommation de musique en ligne. C'est une distorsion absolument colossale. Avec cette réforme, YouTube sera obligé de passer des accords de licence pour rémunérer les ayants droit.
Le match a été rude à Bruxelles entre des artistes et des médias qui cherchent à être rémunérés pour l'utilisation de leurs œuvres en ligne et les plateformes et les réseaux sociaux qui tentent de sauver leur modèle économique. Les premiers sont-ils vraiment gagnants? Les seconds vraiment perdants? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Bernard Benamou.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes le secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, enseignant aussi à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et nous sommes en ligne avec Marc Ress. Bonsoir.
Oui, bonsoir et bonsoir Bernard.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de Next Impact, un site d'actualité des nouvelles technologies, spécialiste du droit dans ce domaine. Donc messieurs, vous vous connaissez bien forcément, hein, tous les deux dans les nouvelles technologies. Vous allez pouvoir nous éclairer alors sur ce nouveau texte. On va voir dans les détails tout à l'heure pourquoi il a tant divisé et il divise encore tant. Mais il faut peut-être rappeler, Bernard Benamou, l'importance d'une nouvelle législation sur les droits d'auteur sur Internet. La dernière remontée à 2001. Et forcément, en 20 ans, l'environnement économique et les supports ont évolué.
Le paysage industriel a changé. Et pour tout dire, le paysage industriel s'est radicalisé, si on peut le dire, au profit des grandes plateformes américaines qui ont concentré un pouvoir qu'elles n'avaient pas au moment où les textes précédents étaient élaborés. Et on le voit aujourd'hui, c'est cette hyper-puissance de ces quelques GAFAM, puisqu'on parle comme ça maintenant, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft en plus, qui ont effectivement concentrer l'essentiel du pouvoir, donc aussi l'essentiel de la valeur en termes effectivement de consultation. Et il fallait à un moment donné rafraîchir entre guillemets le paysage législatif par rapport à cela, sachant qu'on était obligé de constater la faiblesse européenne dans ces domaines.
Et comment expliquer alors les chiffres qu'on a entendus, donc qui étaient cités par une eurodéputée? YouTube diffuse 94% de la musique en ligne, mais ne paye que 3% des revenus donc reversés aux musiciens diffusés en ligne. Comment expliquer ce gouffre?
Bien, la symétrie de puissance est telle entre les différents acteurs de la chaîne entre guillemets de production des contenus que par définition celui qui a le contact final avec l'usager a tout le pouvoir, et surtout quand celui-ci par exemple pour ce qui est d'Apple ou d'autres plateformes sont en mesure de facturer l'utilisateur final. Et donc par définition on voit bien que là-dessus il y a eu une progressive dérive par rapport à ces plateformes qui étaient en mesure de dicter à peu près leurs conditions à tout l'écosystème, parce qu'on l'a vu, les supports physiques ont quasiment disparu dans les deux décennies qui viennent de passer au profit des musiques en streaming, donc en flux, et par définition on voit bien à quel point nous Européens avons malheureusement était, je dirais, en arrière de la main par rapport à ça.
Marc Ress, pour qu'on comprenne bien concrètement comment les œuvres d'artistes, mais aussi de médias, ont pu être utilisées sans être rémunérées en ligne, est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner?
Alors, difficilement. Pourquoi? Tout simplement parce que dans votre présentation, laisse entendre... en tout cas les propos de cet eurodéputé dont je n'ai pas pu noter le nom, laisse entendre qu'il n'y a pas eu d'accord de licence entre les plateformes et les sociétés de gestion collective qui gèrent les catalogues des créateurs. Or, c'est pas tout à fait vrai, puisque j'ai souvenir, par exemple, qu'en 2011, la SACEM avait signé avec YouTube, la SACD également, la SCAM aussi. Alors, d'ailleurs, ces sigles, on trouve des sociétés de gestion collective qui sont là pour gérer les intérêts des créateurs. Donc, on a eu de nombreuses licences, en tout cas d'accords, qui ont peut-être été mal négociés, parce que c'est difficile de faire un bras de fer lorsqu'on pèse 3 grammes face à une personne qui est extrêmement musclée.
On va forcément y revenir.
Je rejoins Bernard.
Quand les artistes se disent pillés, ça veut dire quoi? Ce sont des musiques qui sont utilisées finalement sans être déclarées, ou dans la presse aussi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que je vous demande des exemples concrets pour qu'on comprenne l'utilisation de toutes ces œuvres.
Des exemples, Il faut revenir d'abord sur un principe fondamental, c'est quel est le statut de YouTube ou de Facebook ou Twitter ou Instagram, etc. Leur statut, il est assez simple, il est calibré non pas par la directive de 2001 sur le droit d'auteur, mais par une directive de 2000 sur le commerce électronique. Ces acteurs-là sont des hébergeurs de contenu qui sont mis en ligne par des internautes, et dont la fonction consiste d'une part à stocker, d'autre part à diffuser ses œuvres. Donc moi, si j'ai envie de diffuser une œuvre qui m'intéresse, que j'ai envie de partager avec ma communauté, eh ben, je la mets en ligne sur YouTube, et ensuite ma communauté en profite. Mmh. Et là, de deux choses l'une, soit cette œuvre elle est sous licence, auquel cas la société de gestion collective va glaner une rémunération affectée aux publicités qui sont affichées autour de cette vidéo, soit cette œuvre n'est pas autorisée. Si elle n'est pas autorisée, c'est une contrefaçon. Mmh. Et pour lutter contre les contrefaçons, il y a une procédure qui existe, qui a été remise en cause par la directive sur le droit d'auteur, qui vient d'être adoptée le 26 au Parlement européen, qui consiste donc à envoyer une notification à YouTube à charge pour celui-ci de la retirer.
Bernard Menamou, je vous demanderai de faire vraiment simple, parce que c'est quand même assez complexe à vous entendre.
Ces questions rentrent très vite dans des domaines de spécialité.
Comment on pourrait résumer finalement le sens de cette directive? Qu'est-ce qu'elle doit amener? Alors on parlait des plateformes comme des hébergeurs, là ça change quelque chose. Dites-moi vraiment quelles sont les grandes lignes de ces directives?
Sens au moins. Je dirais, ce texte, un peu comme le règlement européen sur les données personnelles qui est passé, qui a été adopté et mis en place l'an dernier, ces textes ont pour but de rétablir un tout petit peu la dissymétrie, ou ne pas être aussi violemment asymétrique par rapport effectivement à ces plateformes qui ont un pouvoir absolu sur la presse, puisque nous en parlons, je dirais, dans ces domaines, sur la presse, on sait très bien que Google News, par exemple, est un formidable accélérateur de consultation. Et donc, pour un journal, ne plus être référencé pourrait constituer un véritable un danger économique. De la même manière, aujourd'hui, effectivement, on voit bien que l'essentiel de la consultation médicale, je suis pas sûr du chiffre qui vous a été donné tout à l'heure, qui me semblait un peu extrême, puisque
Alors c'était une eurodéputée, il faudrait que je trouve son nom. Oui. De tête, c'était Madame Rosière.
Oui, il faudrait vérifier en termes, parce que est-ce que c'est le pourcentage du catalogue musical diffusé ou le pourcentage du temps passé à écouter de la musique? Il faudrait le vérifier. Mais essentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une telle dissymétrie et il y a une telle, une telle volonté d'impunité de la part des plateformes qui, comme le rappelait Marc Reiss à l'instant, sont pour ce qui est du droit, considérés comme des hébergeurs et donc se dégagent de toute forme de responsabilité éditoriale vis-à-vis de la presse ou effectivement de nature publicitaire en mettant en avant tel ou tel dans le cadre de leurs algorithmes de recherche, comme c'est le cas sur YouTube ou comme c'est le cas sur le moteur de recherche de Google. Or, on voit bien qu'ils sont à la fois hébergeurs, mais aussi éditeurs, ils ont un rôle politique. Je dirais que la période leur est défavorable dans la mesure où on s'est rendu compte de leur impact, y compris démocratique, confère l'affaire Cambridge Analytica et ses différentes conséquences. Donc je dirais, il y a un besoin, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue politique, de rétablir un peu l'équilibre. Et c'était ce sur quoi se sont appuyés les promoteurs de ce texte pour dire on ne peut plus rester, je dirais, dans la naïveté des premiers temps où on disait ces plateformes ont un rôle d'intérêt général et se comportent, entre guillemets, de manière neutre. Elles ne sont ni neutres, ni en faveur de l'intérêt général, comme malheureusement beaucoup d'exemples sont venus le confirmer ces derniers temps.
Et c'est pour ça que, pour Hervé Rony, c'est une victoire historique, ce texte. Donc il est le directeur général de la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia, en France. Je vous propose de l'écouter.
C'était un moment, vous savez, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire. Le Parlement européen prenait conscience de la nécessité pour l'Europe de protéger ses créateurs, ses auteurs, la presse, et de se protéger contre des intérêts qui sont quand même, malgré tout, des intérêts de multinationales, qui ne sont même pas européennes, qui sont toutes nord-américaines. Le but de cette réforme, c'était de contraindre les grandes plateformes, de dire, vous devez partager la valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un tire des bénéfices, des revenus du fait qu'il exploite une œuvre, il doit verser des droits d'auteur. Le droit d'auteur n'est pas un frein à la liberté. Au contraire, c'est une condition de la création et de la liberté.
Marc Reiss, plusieurs articles ont fait particulièrement débat pendant ces près de trois ans donc de discussion. Celui d'abord concernant les éditeurs de presse, ils ont obtenu la création d'un droit voisin. Qu'est-ce que cela signifie de façon simple, s'il vous plaît, Marc Reiss?
De façon très simple, un droit voisin, c'est un droit à rémunération pour l'utilisation ou la diffusion des titres de presse. Voilà.
Jusqu'à maintenant, il n'existait pas.
Il y a eu tout de même des tentatives législatives en France. La dernière en date est signée David Assouline, sénateur PS, qui a été adoptée au Sénat à l'unanimité. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas de droit à rémunération pour ces titres de presse qui sont référencés et placardés sur des pages comme Google Actualité.
Ça veut dire que Google Actualité utilisait les informations de médias sans rien leur devoir,
mais après, il faut aussi comprendre la logique. C'est-à-dire que Google, certes, amasse de la donnée personnelle derrière, mais de l'autre côté, dans cette économie un peu particulière, il y a un double sens. C'est-à-dire que les visiteurs, les internautes qui vont sur Google News, ils vont aussi peut-être parfois, j'espère en tout cas, cliquer pour aller voir qu'est-ce qui se passe derrière ce titre alléchant. Donc, c'est un petit peu gagnant-gagnant. Et puis, certes, les sites ont quasiment une obligation vitale que d'être sur les moteurs de recherche, mais j'allais dire aussi, on peut trouver des modèles, des business models qui se dégooglisent un petit peu, qui sortent un petit peu de ces griffes américaines pour essayer de développer d'autres formules. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire.
Bernard Benamou, je vous fais rebondir là-dessus parce que plus de la moitié des internautes accèdent à des articles de presse via les réseaux sociaux. Mm-hmm. Alors le fait que maintenant les plateformes doivent mieux rémunérer les médias, qu'est-ce que ça risque de faire évoluer? Est-ce que finalement ils font moins appel justement et mettront moins en valeur ces titres-là?
Le danger, c'est que par définition, il y a une opacité de ces plateformes lorsqu'il est question de leurs algorithmes de mise en avant de tel contenu par rapport à tel autre. Ils se sont toujours défendus sur le mode du secret industriel en disant nous ne voulons pas révéler ces éléments constitutifs du secret industriel. Donc voilà. L'autre danger, c'est qu'on leur a accordé parfois des facilités inouïes. La mise en place du fonds Google pour la presse était un piège absolu. Le prototype de la fausse bonne idée qu'il ne fallait absolument pas faire. Et on a donc aidé Google soi-disant à aider la presse à se numériser, c'est-à-dire en clair à renforcer son emprise sur les différentes structures de presse avec lesquelles il travaillait. De surcroît, comme on peut le remarquer, dès qu'il a été question d'une régulation plus dure par rapport à la presse, Google a tout de suite menacé, et ça s'est parfois vérifié brièvement, pas de manière durable, de fermer leur service. Et donc, quelque part, d'assécher ces organes de presse d'une partie conséquente de leur flux de visiteurs.
Ça veut dire que là, la presse pourrait finalement payer le prix, justement, de sa rémunération?
Ça sera une période particulièrement intéressante à voir, c'est-à-dire jusqu'où ira cette partie de poker entre les différents acteurs. Mais je crois qu'en cette saison, je dirais que les régulateurs seront plus attentifs qu'ils ne l'auraient été il y a quelques années, en particulier quand a été mis en place ce fonds pour la presse, avec Google, comme d'autres partenariats plus récents avec Facebook, par exemple, sur les discours de haine, ont été mis en place avec la France, par exemple. Je crois que la période ne leur est pas politiquement favorable. Le business model qui leur sert d'ossature, qui est le business model publicitaire, et de ce qu'on appelle le micro-targeting, c'est-à-dire le profilage extrêmement précis des individus, est de plus en plus contesté, y compris par le règlement européen dont ils sentent qu'il pourrait un jour devenir incompatible avec certaines des pratiques de dispersion sauvage des données personnelles. Donc oui, je dirais que la période a changé. Et malheureusement, suite à d'immenses scandales à répétition, et effectivement, le fait de dire « nous sommes les plus forts et nous ne payerons pas », ou quand on est Apple, nous mettons en place une plateforme de portail de presse et nous prélevons 50% de la valeur que pourraient percevoir effectivement les journaux. Pour mémoire, lors des applications de l'Apple Store, c'est 30%, ce qui est déjà beaucoup, mais 50%, c'est quasiment une spoliation de la part d'Apple par rapport à la presse.
Je voudrais qu'on parle d'un autre article qui fait polémique, dont on a beaucoup parlé, l'article 13, qui aurait changé donc de numéro entre-temps, mais les youtubeurs se sont emparés du sujet pendant l'examen du texte, et maintenant, depuis son adoption, j'ai pas eu à chercher longtemps pour en trouver un qui explique à sa manière les répercussions de ce fameux article.
Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Là, il est 4h22 du matin. L'article 13 est passé à l'Union européenne. Je trouve ça ouf, ça m'énerve tellement je trouve ça débile. En fait, c'est une loi des droits d'auteur. Vous voyez, par exemple, sur nos vidéos, on peut pas mettre de la musique. Genre, on peut pas, par exemple, mettre la dernière musique de PNL en fond de tâche, c'est-à-dire par-dessus ma voix, parce qu'il y a des droits d'auteur. Du coup, toute la monétisation ira au label de PNL. Tout ce qu'on va utiliser dans nos vidéos, que ce soit une marque, une chanson, un bruit sonore, un mème, ça devra être rendu au créateur. Tu vois, donc si j'ai bien compris, ma vidéo, elle sera strikée automatiquement, parce qu'on n'aura pas le droit.
Marc Ress, ça a été vraiment le message des youtubeurs pendant tout l'examen du projet. Ça va nous empêcher de faire des vidéos, ça va couper court à notre créativité. Qu'est-ce que vous pensez de son analyse? Est-ce que ce youtubeur a tout compris?
Alors, je voudrais juste revenir une seconde sur l'article 11 sur le droit voisin de la presse.
Il va nous rester 4 minutes, Marc Ress.
Oui, juste pour préciser terminer. Que le droit voisin, il est assez pernicieux parce qu'il va pousser finalement les éditeurs de presse à être surreprésentés sur les sites comme Facebook, les réseaux sociaux, qui ne sont pas des modèles du genre en matière de respect des données personnelles. Sur l'article 13, effectivement, là, ce qui est dit, ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce qui est dit également du côté des artistes n'est pas tout à fait vrai. Le dispositif est calibré pour armer les sociétés de gestion collective afin qu'elles puissent négocier plus généreusement des accords d'autorisation de reprise de titres musicaux, d'images, vidéos, etc. Mais il y a aussi un pilier qui s'appuie sur des mesures de filtrage. Donc, les plateformes comme YouTube se retrouvent face à un aiguillage. À droite, c'est soit l'accord de licence où ils devront être très généreux. À gauche, ça va être soit des mesures de filtrage où ils devront effectivement bloquer à tour de bras et de manière industrialisée les contenus avec de possibles atteintes à la liberté d'expression.
C'est pour ça, voilà. Marc Benamou, que ce YouTuber parle Bernard. C'est pour ça que ce YouTuber dit « je vais être striké, je vais être ma vidéo finalement va passer à l'as parce que c'est trop compliqué à chaque fois d'aller vérifier qui utilise quoi comme musique. Expliquez-nous ce filtrage dont parlait Marc Ress.
Le vrai danger effectivement, c'est que les outils de filtrage sont loin d'être parfaits. Il y a un risque effectivement de bloquer des choses qui seraient légitimes au nom effectivement de ces logiciels qui seront pour l'essentiel gérés par des systèmes d'intelligence artificielle. Le volume est tel que ça ne peut pas être géré au quotidien une par une par des humains. Donc par définition, il y a un risque qu'au niveau de l'upload, pour parler en bon français, donc du chargement de la vidéo ou de l'audio, que le problème se pose. C'est vrai, et il est vrai effectivement que là-dessus, le pouvoir que possède déjà ces grandes plateformes, on parle en particulier de YouTube, de Google ou de Facebook, sur les contenus est tel que leur redonner effectivement un surcroît de pouvoir et ne pas, et c'est tout le débat qui va avoir lieu sur le type d'outils qui va être utilisé. Est-ce que ce seront des outils mis en place et uniquement conçus par ces plateformes, ou est-ce que ce seront des outils faits par des tiers qui seront auditables, vérifiables, où il y aura une certaine transparence? On en revient toujours aux mêmes notions. Il faut que ces plateformes deviennent plus transparentes. Il y a même un livre entier qui a été écrit là-dessus, sur la société boîte noire que nous devons à tout prix conjurer.
Il va falloir conclure cette émission. Bernard Benamou, alors c'était la question que je posais en introduction, qui est perdant, qui est gagnant avec cette directive européenne, quelques mots?
Sans être particulièrement normand, je dirais, pour l'instant, on ne sait pas. C'est-à-dire que ça dépendra, d'abord, il faut bien comprendre que le texte devra être adapté dans l'ensemble des lois, c'est-à-dire devrait être transposé dans le droit de chacun des pays. Et donc là-dessus, il y aura encore de nouveau un calibrage de ces textes qui n'a pas encore eu lieu. Et les parlementaires devront effectivement là-dessus vérifier les conditions d'exemption, d'exception par rapport effectivement à ces règles devront être particulièrement affinées. Pour l'instant, on détermine effectivement pour des plateformes plus récentes, non commerciales, qui ont un chiffre d'affaires d'un certain montant, etc. Moi, je crois qu'il faudra aller vers une précision extrême vers les grandes plateformes et essayer, d'une part, d'éviter que d'autres ne soient victimes collatérales de cette loi et surtout, effectivement, que l'on ait des outils plus transparents pour ce qui est de la gestion de ces contenus. On en a absolument besoin et pas simplement pour des raisons de propriété intellectuelle.
Et c'est ensuite à l'usage, alors qu'on saura si c'est une bonne directive. Merci
absolument.
Beaucoup. Marc Ress, en ligne avec nous, chef de Next Impact, site d'actualité de nouvelles technologies. Merci Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, enseignant à l'Université Paris 1. Merci à Éléonore Krenik, Charles Mamère, Simon Carteret, Fabrice Violet qui m'ont aidé à préparer cette émission. Tout de suite, l'actualité africaine.